12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Elle documente la vie quotidienne en Afghanistan depuis 2007. La photographe Sandra Caligaro sera mon invitée et ce sera à partir de 13h. Mais on commence avec un débat critique, c'est comme ça, c'est les midis, avec deux sorties cinéma, Miroir numéro 3 de Christian Petzold et Fantôme utile de Ratchapum Bunbunchashok. Vous écoutez les midis de culture et c'est bien, continuez. Et je vous présente les critiques du jour. Antoine Guillot, qui me félicite pour ma prononciation. Producteur de l'émission Plan Large, le samedi à 13h30 désormais, sur France Culture évidemment. Et puis Philippe Azoury, journaliste, critique et auteur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Marie, comment ça va?
Ça va bien et vous, pour cette rentrée, cette vraie rentrée?
La polyglotte Marie.
Alors, Christian Petzold est infidèle. C'est la quatrième fois qu'il fait tourner Paola Baer et la septième pour Barbara Auer. Miroir numéro 3, son 19e long métrage a été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes cette année. Paola Baer incarne ici Laura, étudiante, musicienne, berlinoise, victime d'un accident de voiture dans lequel son petit ami meurt. En attendant les secours, elle trouve refuge chez une femme et finit par s'y installer. Un film sur le deuil, sur l'absence, sur la reconstruction, la famille. On commence par un avis, on va dire à l'emporte-pièce, pour commencer, Philippe Azoury.
Très très compliqué, parce que je crois que si vous m'aviez posé la question à la sortie de la projection, j'aurais été un peu maussade, je vous aurais dit l'histoire d'une fille qui voudrait trouver sa place quelque part, pour un film qui sait quand même jamais trop vraiment où il va. C'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus complexe que ça. Ça a des effets, surtout sur le spectateur, beaucoup plus longs que ça. Mmh. Et finalement, une semaine après avoir vu ce film, je n'hésite pas à dire que c'est peut-être le film le plus passionnant que j'ai vu depuis cette rentrée.
Ah oui, c'est vraiment un changement
tout au
total.
Tout.
Voilà.
Désaxé, quoi.
Antoine Guillot.
Alors, j'ai été un peu plus rapide à la détente que Philippe Azoury, parce que
il est fatigué, il n'a pas pris de vacances.
Non, dès la sortie du film, j'ai été enthousiasmé par lui. Sans doute parce que c'est le film le plus épuré, le plus lumineux de Christian Petzold, et qui pourtant, derrière cette apparence de simplicité colorée, cache une grande, grande complexité et une obscurité très profonde.
Alors on va écouter tout de suite la bande-annonce de Miroir numéro 3.
Hatten Sie mir essen eingeladen?
Hallo Mama.
Betty, was soll das denn?
Was denn?
Das da.
Sie kommen gleich. Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist.
Wir haben lange nicht mehr so zusammengesessen zu Abend.
Kann ich vielleicht auch hierbleiben?
Miroir numéro 3 de Christian Petzold en salle aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que vous ayez changé comme ça d'avis, de regard sur ce film, Philippe Azoury?
Durant la projection, j'étais sans arrêt désarçonné, à peu près partout, tout ce que je voyais. Ça faisait peut-être quelques jours, j'étais pas allé au cinéma, je sais pas. Je trouvais l'image assez étrange. Elle est pourtant réalisée par son chef-op habituel. Ouais, vraiment. Donc c'est une image qui est pensée. Ça peut pas être un accident. Je trouvais les lumières un peu cramées. Je trouvais le jeu d'acteur en deçà. Alors que pareil, Paula Baer est au final extraordinaire, mais c'est la quatrième fois. Enfin, je veux dire, ce sont des gens qui travaillent en équipe. Et c'est précisément ce qu'on voit finalement quand on a le film entier entre les mains, c'est que c'est un travail d'une équipe qui se connaît et qui se permet des choses qui sont quand même effectivement au-delà d'une première impression de film où on voudrait être surpris tout en ayant les clés entre les mains. Or, c'est un film qui ne cesse de dérégler tout ce qu'on peut croire. C'est un film qui met en crise notre position de spectateur et notre position de critique. Et il n'y a rien de pire que la position de critique, parce que c'est une profession, la nôtre, qui est celle de gens qui sont persuadés, à qui on ne la fait pas, quoi. Alors qu'on nous la fait tout le temps. Et c'est précisément un film qui s'adresse à cette catégorie de spectateurs assis sur leur chaise en train de dire, ah oui, ça, encore ça. Ça ne sont que...
C'est-à-dire encore ça, quoi, par exemple?
Ma mère avait une expression, elle disait toujours, ah ça, ça l'avance, c'est que des coups de barre. C'est-à-dire vraiment des choses complètement improbables. Bon, c'est l'histoire d'une jeune pianiste qui, après la mort accidentelle de son compagnon, trouve le refuge dans une famille, plutôt chez une femme d'ailleurs, dont on découvre après qu'elle est mariée et qu'elle a un grand fils, comme ça dans la campagne allemande. Et la jeune pianiste est berlinoise. La mort, par exemple, du fiancé, l'accident a lieu devant la maison. On apprend que le garçon est mort, c'est totalement évacué. C'est-à-dire que c'est des choses qui, sur scénario, on se dit, mais c'est complètement, ça tient pas. Enfin, comment ils ont réussi à trouver de l'argent, déjà? Enfin, avec une chose pareille. L'arrivée, finalement, du mari et du grand-fils, qui se fera au moins, je sais pas, Antoine a dû mesurer ça, mais une de 35, 40 minutes de film. Sont des choses comme ça qui avancent au culot et qui ne cessent finalement de créer un mystère avec très très peu de choses, parce que le film est fait sur une raréfaction des effets, une raréfaction des personnages, une raréfaction des territoires. On est sur un petit périmètre, une maison et un garage. On y fait des allers-retours, on a un chemin qui est balisé, on doit faire avec ça, tout doit faire signe, et ça fait tellement signe qu'on se dit, mais oui, ça, on a compris, je sais très bien où ça va. On est persuadé que c'est là-dessus que ça se joue, qu'il y a un mystère, il est quand même gros comme une maison, on a à peu près refilé le truc, et qu'on le voit se déplier. Or, quand on a le film en entier, on s'aperçoit que c'est pas du tout de ça dont il s'agissait. J'ai lu un peu partout, je suis assez étonné que ce serait un film sur l'histoire d'un fantôme. C'est un film sur la projection, y compris la projection cinématographique. Mais c'est un film sur la projection, sur les projections de chacun. Cette femme qui recueille cette jeune pianiste, elle projette effectivement une pièce qui lui manque dans sa vie. On l'a compris assez vite. La jeune pianiste qui n'a plus de lieu, qui n'a plus rien, pour qui Berlin n'était pas déjà quand même un grand port d'attache, on sentait qu'elle y étouffait. Cette jeune pianiste, elle projette un endroit où vivre, une histoire à laquelle une famille ou une histoire à laquelle se raccrocher. Et tous ces personnages, effectivement, comme le morceau de Ravel qui sert pour le titre, Miroir numéro 3, tous ces personnages-là, de projection en projection, font comme ça chacun sert à être le reflet, le miroir de l'autre. Et ça constitue un puzzle explosé, improbable quand on le regarde, et finalement magnifique quand on le tient, quand on l'a ramassé, et qui, tout ce qui semblait complètement incohérent passe dans la mémoire avec un effet de douceur. Je crois que Antoine avait une expression, c'est le film le plus lumineux, je crois, de Petzold. Il y a un effet de douceur, de caresse, alors qu'on n'a fait que résister pendant toute la projo, avec ce moment que, au moins, on ne me la fait pas. Et c'est merveilleux, en fait.
Antoine Guillaume.
Alors, il y a beaucoup de choses. J'aime beaucoup les interprétations de Philippe Azoury parce qu'on peut en faire énormément. cette piste du fantôme, par exemple, est assez séduisante. Ça ira avec le film dont on parlera tout à l'heure, mais c'est moins la présence d'un fantôme que son absence. Et tout joue sur une absence qui en rencontre une autre et qui arrive à partir de là à construire quelque chose. Ce qui est très passionnant et assez désarçonnant, effectivement, avec le film, c'est que tout l'univers, le monde qu'il nous présente se construit au fur et à mesure. C'est-à-dire, cette famille, par exemple, n'est pas donnée comme telle au début. On est vraiment loin des expositions classiques. Se construit un lien passé au fur et à mesure que le film avance. C'est déjà très troublant. Et puis, ce qui peut effectivement désarçonner, comme l'expérience que Philippe vient de nous raconter, c'est que par des moyens très simple, mais vraiment minimaliste, Christiane Petzold arrive à créer cette sensation qu'on est quelque part entre l'éveil et le rêve. Mmh. C'est-à-dire qu'on est dans un territoire qui est assez labile, qui a l'air très concret, comme ça, et qui en fait est très flottant. Et cet état, ce qu'on appelle l'état hypnagogique, c'est précisément celui du spectateur qui regarde un film, qui est à la fois dans ce qu'il voit, dans ce qu'il rêve, dans ce qui ressurgit de ses propres émotions, de sa propre vie passée, avec ce à quoi il se raccroche. Donc, on est dans un état très très troublé et flottant pendant tout le film. Et puis, c'est aussi un film qui est sans arrêt sur le le regard. C'est-à-dire, ce qui déclenche le récit, au départ, c'est un regard. Cet accident, vous dites que c'est une mort accidentelle, vous avez dit qu'elle était victime d'un accident, on n'en sait rien, puisque l'accident a lieu hors champ. On ne sait pas si c'est un suicide, si elle se débarrasse d'un amant terriblement ennuyeux, encombrant.
Oui, ça peut être un meurtre chabrolien.
On peut y mettre énormément. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que c'était à la fois lumineux et obscur, parce que ça travaille énormément sur le hors-champ. On sait très peu de choses sur le passé des personnages et on n'a pas besoin de l'expliquer. Donc la projection du spectateur est là. C'est-à-dire qu'il est lui-même amené à co-construire le film en permanence, à échafauder des hypothèses, à se rattraper à des éléments alors qu'ils font signe. Effectivement, il y a une chaussure comme dans Cendrillon, il y a cette voiture qui semble sortir de l'histoire du cinéma. On peut penser évidemment au cinéma de Hitchcock parce que ça serait presque Vertigo vu du point de vue de la femme du personnage double que joue Kim Novak, puisque c'est quelqu'un qui va se trouver à remplacer une femme disparue, mais qui trouve tout à fait son compte. C'est-à-dire qu'elle a une disponibilité au départ pour se recréer un vie, pour trouver un rôle, et le film abonde de métaphores du cinéma comme co-construction, ce dont je parlais tout à l'heure, comme un mécanisme de survie. Le cinéma ne sert peut-être qu'à apprendre à survivre à tout ce qui nous est arrivé, et à ce personnage qui, littéralement, est une comédienne qui va jouer un rôle, et qui va réapprendre la vie à partir de ça, parce que c'est réellement une renaissance qui est montrée. Alors, elle passe par toutes les étapes de la vie, elle apprend presque à parler, à marcher, à faire du vélo, à manger, à se conduire, et c'est au moment où le charme se brise, c'est-à-dire que tout d'un coup il y a trop d'explications, que ça marche plus et qu'il faut passer à autre chose.
Oui,
et
ça se casse ou qu'elle se casse.
Et c'est-à-dire il faut arrêter de dire les choses. Le cinéma, c'est pas de dire les choses, c'est pas expliciter, c'est de nous montrer un peu du mystère et nous laisser l'habiter. Et ça, c'est ce qu'arrive à faire Christian Petzold, qui vraiment a raffiné son cinéma pour arriver avant il y avait ces grands récits sur l'histoire allemande, etc. L'histoire allemande, elle est là aussi. Il y a toute cette mythologie germanique, le romantisme. Au début, ça commence presque par une citation littérale de l'île des morts de Böcklin. Il y a encore le motif de l'eau qui habite Ondine. Il y a la forêt comme dans le ciel rouge précédent. Tous ces motifs sont là, donc à la fois des motifs très archaïques, des motifs de l'histoire du cinéma et puis du temps présent. Tout ça s'agglomère dans ce film qui a l'air très simple, mais je l'ai dit, et on le voit rien que dans notre façon d'en parler, qui est d'une inépuisable complexité.
Je voudrais bien qu'on parle un peu de l'image, puisque vous parliez de luminosité. C'est aussi dans l'image, j'imagine, quelle est cette luminosité-là?
Il est possible, parce que le film alterne des images, des plans de paysage de la région du Brandebourg qui sont plutôt très bien rendus, et des plans en intérieur où les visages sont un peu agressés par la lumière. Et là aussi, il y a cet effet, finalement, c'est ça que la mémoire ensuite retravaille magnifiquement bien, c'est qu'on voit qu'il y a une impossibilité à raccorder l'extérieur et l'intérieur. Et on en a parlé un peu là, Antoine encore déplié. Effectivement, l'impossibilité à faire juxtaposer deux projections ou deux fantasmes ou tout simplement deux états, quel qu'il soit, état politique, état légal, général ou état comme humeur, l'impossible réunification, je veux dire, à un moment donné, que le film travaille. Et quand Antoine, c'est très très beau, disait justement, c'est aussi un très très grand film sur l'histoire de l'Allemagne, mais qu'il le fait comme ça, en gros plan, en nous montrant juste des détails, sans rien dire. Et il y a un grand cinéaste français, mais je dirais pas son nom, qui disait quand la grande question de Libé, pourquoi filmez-vous? Je ne filme pas les choses pour les dire, mais pour les taire. C'était Benoît Jacquot. C'est un peu cancel, mais la phrase est sublime. Elle marche là merveilleusement bien. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté d'intelligence qu'il y avait chez Chabrol. Comme beaucoup de gens, je suis resté à Paris cet été. J'ai revu pas mal de Chabrol, notamment La Femme Infidèle que j'avais jamais vue. C'est des films qui viennent résonner. Enfin, c'est
une référence explicite pour Petzold. Ouais,
Christian Petzold, que vous recevez, Antoine Guillaume,
Qu'on recevra samedi, si tout va bien, dans Plan Large, à 13h30, dans ce nouvel horaire. Moi, je voulais quand même rajouter quelque chose, parce qu'on parle de l'image, évidemment, mais il y a quand même cet état de disponibilité dans lequel il met le spectateur. Ça travaille aussi beaucoup par le son. Il y a vraiment le sentiment qu'on entend des sons pour la première fois dans ce film, comme cette jeune femme qui va redécouvrir la vie. Et c'est pas pour rien que la musique a évidemment une importance primordiale dans le film. Le film est très clairement inspiré de ce morceau de Ravel. C'est l'histoire d'un naufrage, d'une dérive. La musique est toujours diégétique dans le film. C'est jamais de la musique de film. Soit c'est parce qu'elle est pianiste, elle joue du piano, quitte à interrompre. C'est très beau cette manière dont le prélude de Chopin qu'elle va jouer est interrompu brutalement avant qu'on verse dans le sentimentalisme et dans le sirupeux. Mais surtout, toutes les musiques soit proviennent d'un corps quand on joue du piano, soit ont un effet sur les corps. Il y a cette très belle scène où le fils de cette famille et la protagoniste, Laura, qui s'appelle évidemment pas Laura pour rien, dans le genre film de fantôme, c'est pas mal, écoute une chanson pop de Frankie Valli. Qui va lire The Night, je crois, et le plan dure jusqu'à un éclat de rire, jusqu'à une scène de fou rire. Et là, on a ce sentiment qui est toujours merveilleux pour le spectateur, d'avoir le sentiment d'être presque sur le plateau de tournage et de voir cette scène qui a duré très longtemps et où tout d'un coup, ça a provoqué quelque chose qu'on peut imaginer pas du tout écrit au scénario, complètement inattendu et qui est un vrai moment de vérité à la fois pour les personnages et pour les acteurs. Et ça, c'est extrêmement précieux.
Mais même chose dans la voiture au début avec le morceau de Mathilde Santel aussi.
Miroir numéro 3 de Christian Petzold, c'est en salle aujourd'hui.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et donc, de fantôme en fantôme, on enchaîne avec le premier film du Thaïlandais Ratchaphum Bonbunchachok. Par ailleurs, scénariste aguerri dans son pays. Je veux bien vous donner le scénario de départ, mais franchement, ça ne va peut-être pas rendre compte des multiples rebondissements et directions que prend le film. Alors, allons-y quand même. Un jeune homme porte le deuil de sa femme, dont le fantôme revient en s'incarnant dans un aspirateur. Voilà, les fantômes sont nombreux dans ce film, fantômes des êtres aimés, fantômes aussi des martyrs de la révolte populaire thaïlandaise, fantômes des ouvriers exploités. Fantôme Utile a remporté en mai le Grand Prix de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. On commence avec un mot rapide de l'un et de l'autre, Antoine Guillaume.
Oui, c'est un film assez étonnant, assez bizarre, un peu filandreux, un peu mou parfois, mais qui est quand même tout à fait réjouissant par toutes les pistes bigarrées, on pourrait dire, qu'il explore.
Philippe Azoulay.
J'adorais ça.
Adoré, c'est ça, voilà.
Oui, mais avec aussi les réserves, le film est sans doute un peu trop long, ouais. il a des choses, mais il y a beaucoup de niveaux de lecture, et il m'a fait très très peur au début, et puis progressivement, je n'en savais rien en mettant les pieds dans la salle, et je me suis attrapé par quelque chose qui m'a aspiré.
On va écouter un petit peu ce que ça donne, ce fantôme utile. Là, il faut vraiment l'image, hein, je pense quand même. Fantôme Utile de Ratchaphum Bonbunchachok sort en salle aujourd'hui. Alors, la liste d'adjectifs était intéressante, Antoine Guillot. Étonnant, filandreux, réjouissant, bigarré.
Oui, parce que c'est un film... Bon, d'abord, pour pleinement le comprendre, je crois qu'il faut être thaïlandais, avoir regardé beaucoup d'adaptations télévisuelles plus ou moins sirupeuses d'une légende locale sur une jeune femme morte qui continue à partager sa vie avec son mari avant d'être chassée par sa belle famille. Je pense qu'il faut aussi bien connaître le cinéma de fantômes thaïlandais, qui est un genre en soi, mais on peut le prendre tel quel. C'est-à-dire le prendre avec un certain étonnement. C'est-à-dire que le début que vous avez donné n'est pas complètement le début, parce qu'il y en a deux. Il y en a deux avant. Alors, il y en a un premier qui est la destruction d'une fresque historique d'un parti de gauche qui avait été au pouvoir à un moment, le Parti du Peuple, je crois, qui est déplacé, ce bas-relief, pour laisser la place à un centre commercial. Le futur, c'est maintenant, dit la publicité. Et puis après ça, vous avez ce qui pourrait être le début d'un film érotique queer thaïlandais, où un jeune homme transgenre qui est cité au générique, enfin le nom du personnage, c'est Academic Lady Boy, si je me souviens bien, a un problème avec son aspirateur parce que il constate que tous les matins l'aspirateur recrache la poussière qu'il a aspirée la veille, et la nuit il entend quelqu'un tousser, et dès qu'il appelle pour qu'on le fasse dépanner, surgit un beau réparateur peroxydé, et là on s'est dit, on part dans quelque chose d'assez bon, voilà, pourquoi pas. Et ce personnage, en fait, va lui raconter l'histoire, qui est l'histoire principale, donc qui est l'histoire de cette femme décédée d'une embolie pulmonaire causée par la poussière, et qui se réincarne en aspirateur. Et là, comme il y avait ce début un peu érotique, on dira, sur le propos, on se dit, tiens, ça va parler de technosexualité, de fétichisme électroménager, ce qui est une des pistes du film, d'ailleurs, parce qu'il y a des scènes assez troublantes entre cet aspirateur et son mari, et puis ça part encore sur autre chose, qui là convoque l'histoire de la Thaïlande, mais on peut faire presque abstraction de tout ce substrat que j'essaye de décrire, pour y voir effectivement une fable à la fois sur le fétichisme de la marchandise, sur la capacité du capitalisme à intégrer ses contestataires et à les utiliser pour se maintenir au pouvoir. Et puis, il y a surtout un film là réellement de cinéma, pour le coup, derrière tout ce propos qui parfois est un peu didactique, qui peut être un peu lourd parfois, mais qui est surtout, c'est très étonnant, cet homme, Ratchaboom Boonbanchashok, a une grande connaissance du cinéma. Il se réclame de tout un tas de personnes, de Rivette à Oliveira, en passant par Montero et Ackerman. Moi, pourtant, il y en a un qu'il ne cite pas, mais qui est sans doute le modèle de beaucoup de ces cinéastes, c'est Jacques Tati. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a cette usine qui est sortie directement de mon oncle, qui est complètement absurde, où les fantômes des accidentés du travail reviennent hanter les machines et pulvérisent sans arrêt cette poussière qui est la grande force métaphorique du film. On apprend aussi que poussière dans l'argot thaï, c'est comme ça qu'on désigne les gens qui ne valent rien, les oubliés de l'histoire, les massacrés, les gens qui sont de la poussière, mais la poussière, c'est impossible à maîtriser. La poussière, elle est toujours là, partout, elle finit toujours par se déposer, elle revient sans cesse. La poussière, c'est aussi le grouillement de l'image cinématographique à l'origine, quand elle était encore argentique. Donc c'est un film qui est plus riche en métaphores, en fait, qu'il ne se donne directement dans celles qui sont lisibles très, très explicitement sur tout ce que je viens de dire, et y compris la nécessité pour la bourgeoisie de faire du révisionnisme historique sans cesse, voir ce qui se passe aux États-Unis en ce moment pour se maintenir au pouvoir.
Mmh. Philippe Azoury. Bon. Avec un rythme très particulier aussi, hein, ce film.
Tati. Voilà. Ouais. Alors là, la référence sur Tati, je suis complètement d'accord. D'autant plus que, pareil, dans les films que j'ai un peu revus cet été en salle, il y avait les vacances de Monsieur Hulot. Et j'ai complètement pensé à ça aussi. Vraiment, de jouer avec ce qui peut gripper la machine, justement. Ou comment les machines reviennent pour nous gripper, nous. C'est ça qui est très intéressant.
Bon, première. Je précise tout de même, pour ceux qui n'ont pas l'image, que Philippe Azoury porte un magnifique t-shirt avec une machine à laver dessus.
Je parlais
du fétichisme électroménager.
C'est la couverture de Washing Machine de Sonic Youth, mais il y a marqué Jeunesse Sonic, j'avais trouvé ça au Canada. D'abord, on a les retrouvailles avec un personnage de cinéma qu'on n'avait plus vu depuis 44 ans, qui n'avait fait qu'une seule apparition au cinéma. Je parle de l'aspirateur suceur, qui apparaissait une fois, j'ai cherché partout, mais dans Chaude Adolescente, un film de Gérard Kikoïn de 1981. Avec Marilyn Jazz dans la première scène. On l'avait plus revu depuis, et là il revient, et puis il prend de la place.
Frank Zappa avait écrit une très belle pièce de musique contemporaine sur un aspirateur érotique.
Bah, nous y voilà. On voit que ce film nous met quand même de très très, très très bonne humeur. Alors que c'est un film très en colère. C'est un film très très sombre et très en colère, mais très bonne humeur. C'est vrai que j'avais eu la chance, moi, il y a 20 ans maintenant, d'avoir pu visiter la Thaïlande avec Happy Chappang Veerasethakul, et dans les gens qui étaient autour de lui.
Autre réalisateur évidemment.
Voilà. Dans les gens qui étaient autour de lui, il y avait beaucoup de gens qui fabriquaient justement ce qui doit quand même être un genre spécifique en Thaïlande, d'un film qui est, d'un cinéma qui serait camp, complètement délirant, et fait lui aussi à partir, enfin voilà, de cette espèce comme ça de satire énorme de la société, ou qui peut faire penser dans la même lignée à un film grec qui a aussi une vingtaine d'années, qui avait plutôt marché, de Panos Koutras, qui est l'attaque de la moussaka géante. On est un peu dans cette lignée là mais avec quelque chose d'un peu plus léché, si j'ose dire, en tout cas d'un peu plus tenu, qui serait un peu plus arty, qui serait presque un côté comme ça, un humour poli, gentiment absurde, très millimétré, quoi, qui aurait quelque chose de Wes Anderson. Mais Ratchapoum, Bouben Chachok a un côté Wes Anderson, braguette ouverte, quoi, on pourrait dire. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'il ne canalise rien, lui, il expose à tout vent et à tout va. Et avec effectivement plusieurs niveaux de lecture, Antoine en a ciblé quelques-uns. Donc, il y a ce niveau sexuel, comme ça, très, très, très délirant, très bigarré. Il y a cette critique de la société, notamment d'un point particulier, d'une mutation particulière de la société thaïlandaise, c'est-à-dire cette fascination pour la société américaine et en ce qu'elle peut être à la fois bourgeoise, coincée, très, très coincée sur le sexuel, très, très retenu comme ça, très hypocrite, qui ne ressemble pas du tout en fait à ce qu'est la société thaïlandaise de l'intérieur. Et ça, c'est dynamité et c'est cette poussière-là qui revient. Et puis, il y a une proposition poétique qui est quand même assez bouleversante, qui vient en dernière partie de film. C'est l'idée que c'est l'idée des fantômes, notre rapport aux fantômes, notre rapport aux souvenirs. Enfin, je dirais habituellement, l'idée, c'est que nous, on se souvient, on refuse la mort, on refuse l'idée de la perte et de la mort, on veut se souvenir absolument. C'est pas du tout ce que propose le film. Il propose un renversement total. Il dit, ben non, en fait, c'est les fantômes eux-mêmes qui ne cèdent pas à la mort. C'est eux qui ne veulent pas partir. C'est eux qui s'accrochent, en fait, à nous. Et ils reviennent comme, pour eux, c'est revenir, c'est une forme de protestation. C'est-à-dire que les fantômes sont finalement notre part politique, notre part résistante, notre part, voilà, comme ça, qui vient gripper, justement, tout un tas d'appareils ménagers. Commencer par l'aspirateur suceur.
Antoine Guillaume, un dernier mot?
Oui, bah ça donne beaucoup d'espoir en fait, effectivement, puisqu'on est dans une période qui favorise l'oubli. Donc ce côté très subversif du fantôme, ça c'est quelque chose qui me semble précisément était assez peu exploré, quoi. Donc il y a peut-être que ça va créer une nouvelle forme politique, comme le zombie romérien, là, cette espèce de retour de la masse. Donc voilà, c'est un film qui donne des forces et de l'espoir.
Ouais. Ratchapoum Bouben Chachok, réalisateur de son premier film Fantôme utile, et ça sort en salle aujourd'hui. Antoine Guillaume, Philippe Azoury, merci beaucoup
merci
d'être
vous,
venu dans cette toute première véritable première.
Oui, mais les plâtres, alors maintenant on va passer l'aspirateur.
Des Midis de Culture, évidemment, toutes les références, les infos pour ces deux films sont sur la page des Midis de Culture et sur le site de France Culture.